7-9. Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 22 février, Élysée 2022, les candidats face au 7-9. Vous le savez, c'est notre rendez-vous politique de campagne. Ce matin, Valérie Pécresse sera notre invitée de 8h20 à 9h30. Posez-lui vos questions dès maintenant, le standard est ouvert et vous attend au 01 45 24 7000. William Delesseux, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la communauté internationale réagit après les déclarations de Vladimir Poutine. Le président russe reconnaît l'indépendance des bastions pro-russes en Ukraine et ordonne à ses troupes d'entrer dans le Donbass ukrainien. Nous serons sur place dès le début du journal, William, après les autres titres.
En vue de la présidentielle, parle-t-on assez de la jeunesse et de toutes ces réalités des candidats et des jeunes? Journée spéciale sur France Inter ce mardi. De 15 à 25 ans, ils sont 100 et viennent parler à 7 candidats à la Maison de la Radio. C'est un rendez-vous inédit. À 4 jours du début du Salon de l'Agriculture, une photographie de l'état du métier. Il y a urgence. La France a perdu plus de 100 000 agriculteurs en 10 ans. Un réseau associatif tente de trouver des solutions contre le gigantisme des exploitations et pour des cultures plus responsables. Et puis, rencontre avec Jean Rondeau, un claveciniste de 30 ans tout juste. Portrait d'un virtuose fou donc du clavecin.
Et les invités d'Inter ce matin, le vôtre à 7h50, Léa.
Oui, il avait dit pas de candidature tant que la crise ukrainienne est en cours. Depuis le discours de Vladimir Poutine hier, la crise en Ukraine, on le sait bien, risque de durer. Du coup, Emmanuel Macron va-t-il accélérer sa déclaration de candidature? À 47 jours du premier tour, il serait temps, disent ses opposants. On en parle avec le patron des députés La République En Marche, Christophe Castaner, sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa.
France Inter.
Rien n'a arrêté Vladimir Poutine dans sa marche vers la guerre. Nous y sommes désormais. Le président russe décide dans une longue allocution dans la soirée de reconnaître l'indépendance de deux territoires du Donbass dans l'Est ukrainien. Réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Occident promet des sanctions contre la Russie dès aujourd'hui. Sur place à Moscou, on vous retrouve. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour William.
Vladimir Poutine a donc choisi l'épreuve de force. Il ordonne ce matin à ses troupes de franchir la frontière pour entrer dans le Donbass.
Oui, les images se multiplient ce matin sur les réseaux sociaux. On voit des dizaines et des dizaines de blindés russes pénétrant sur le territoire des républiques séparatistes. Au sens du droit international, c'est une invasion. Pour les Russes, c'est une opération de maintien de la paix. C'est ce qui est écrit dans les décrets signés hier soir par le président russe. Épilogue d'une journée qui avait commencé sur une note d'espoir. On évoquait la possibilité d'un sommet Biden-Poutine, mais en réalité, tout semblait déjà orchestré, minuté côté russe. Le Conseil de sécurité tenu en direct à la télévision, où l'on a vu les principaux responsables politiques et militaires du pays défiler devant le chef du Kremlin pour dire, les uns derrière les autres, qu'ils étaient favorables à la reconnaissance des séparatistes. Le discours de près d'une heure à la télévision, là encore dans la soirée de Vladimir Poutine, au cours duquel il a réécrit l'histoire de la Russie, allant jusqu'à expliquer que l'Ukraine était une création des bolcheviks et que son existence même était au fond illégitime. Ce qui se passe ce matin n'est que la suite logique de la concentration de troupes depuis des semaines aux frontières de l'Ukraine. Vladimir Poutine l'a dit hier, s'il y a effusion de sang, ce sera la responsabilité de Kiev. En attendant, les combats se poursuivent sur la ligne de front.
Merci beaucoup Sylvain Tronchet pour ces dernières précisions. Correspondante France Inter à Moscou, la Russie, cette nuit au Conseil de sécurité de l'ONU, assure qu'elle reste ouverte à la diplomatie. Sur le front donc, les combats s'intensifient. On rejoint Thibault Lefebvre. Bonjour Thibault.
Bonjour William.
En direct sur France Inter, vous vous trouvez dans le Donbass, à Slaviansk, à une centaine de kilomètres des zones séparatistes. Comment réagissent les habitants ?
Oui, ce qui fait peur ici, William, c'est surtout le spectre du retour des heures les plus sombres de la guerre. C'était au printemps 2014. Alina était alors adolescente et elle vivait dans un immeuble de la petite ville d'Avdivka. C'est à la lisière sur la ligne de front, à la lisière des zones séparatistes. Sa famille est toujours là-bas, la guerre aussi.
J'ai peur pour mes parents, mais on ne sait pas encore ce qu'il va se passer. Je crains que la situation revienne comme en 2014, quand les bombardements ont touché presque tous les immeubles. La seule chose que l'on veut, c'est que ça se termine.
Valentina, à l'âge des parents d'Alina, elle était à Slaviansk en avril 2014 quand le drapeau russe flottait déjà sur les bâtiments officiels après l'offensive des séparatistes. La ville a été reprise 3 mois plus tard par l'armée ukrainienne qu'elle croit aujourd'hui mieux organisée et surtout mieux armée.
Ici, c'est l'Ukraine et nous voulons que ça reste comme ça. Nous avons déjà connu la guerre. Nous espérons que tout rentre dans l'ordre.
Vous pensez que la guerre peut reprendre ?
Je ne pense pas. Je suis certaine que l'Ukraine ne va pas nous abandonner.
Valentina se sent ukrainienne, mais pour vous dire, comme ici, rien n'est simple. Dans le restaurant qu'elle gère au cœur de Slaviansk, on parle le russe et on écoute les derniers tubes produits à Moscou.
Thibaut Lefebvre avec les moyens sur place de Jérémy Thuil. Merci beaucoup à vous deux. Et face à la Russie, le président ukrainien Zelensky assure n'avoir peur de rien ni de personne. En Centrafrique, que s'est-il passé à l'aéroport de Bangui? Quatre militaires français escortant un général de la force de l'ONU ont été arrêtés hier, accusés d'avoir voulu s'en prendre au président centrafricain. L'armée française assure que le problème est en cours de règlement.
Il est 7h06, c'est une journée spéciale sur France Inter, William, co-organisée avec l'association Chemin d'Avenir.
Des candidats et des jeunes. Grand oral avec 7 candidats à la Maison de la Radio et de la Musique tout au long de la journée, de Fabien Roussel à Marine Le Pen, face à ces candidats, 100 participants de 15 à 25 ans, prêts à débattre. Ils sont conviés par Chemin d'Avenir, Maxence Lambrec. Ces jeunes viennent avec des remarques et des questions qui les concernent.
C'est la première fois dans cette campagne que les candidats seront directement confrontés aux jeunes d'aujourd'hui vivant en zone rurale ou périphérique grâce à l'association Chemin d'Avenir. Certains très éloignés de la politique, souvent préoccupés par des sujets qui ne font pas l'actualité. 45 minutes de débat face à, dans l'ordre, Fabien Roussel, Éric Zemmour, Yannick Jadot, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Interpellés sur le droit de vote à 16 ans, la gratuité des transports pour les jeunes, la liberté de genre, le harcèlement scolaire, le défi de l'orientation, réponse sur la scène du studio 104. S'adresser aux moins de 25 ans, répondre à leurs attentes, ce n'est pas séduire une clientèle électorale comme une autre, c'est un marqueur fort dans une campagne pour illustrer une dynamique, incarner l'avenir, chacun veut être le candidat des jeunes. Dans ce domaine, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen reprennent leur bataille de 2017. Eux qui maîtrisent bien les réseaux sociaux restent pour l'instant les plus identifiés, les plus audibles auprès d'un public qui conserve le record de l'abstention, 50% de plus que la moyenne des Français en 2017.
Des candidats et des jeunes, Maxence Lambrec, tout le programme de notre journée à retrouver sur franceinter.fr.
Et certains candidats à la présidentielle auront les yeux rivés sur un chiffre aujourd'hui.
Le Conseil constitutionnel va mettre à jour ses compteurs de parrainage. Aux dernières nouvelles, ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Éric Zemmour et encore moins Christiane Taubira n'ont atteint le seuil des 500 signatures d'élus. À droite, Valérie Pécresse, elle les a très largement, ses parrainages. La candidate invitée spéciale sur France Inter tout à l'heure, Valérie Pécresse, dont la campagne peine à trouver son second souffle. De quoi fissurer la confiance de certains militants. Anne Souhaitemont, vous avez rencontré ceux qui commencent à douter dans les Alpes-Maritimes. Parole ce week-end au meeting du Canet.
C'est très difficile.
Son drapeau bleu-blanc-rouge à la main, Jeannine, 40 ans de militantisme, aimerait croire à la victoire de Valérie Pécresse, mais elle a des doutes.
On est là pour elle, mais il y a des grands points d'interrogation.
Dans le public, samedi dernier, beaucoup de monde, malgré le zénith raté quelques jours plus tôt, mais des militants très divisés. D'un côté, ceux comme Christophe, la quarantaine, qui attendent de Valérie Pécresse une ligne très droitière sur la sécurité ou l'immigration.
Je pense qu'elle devrait suivre aussi les conseils de M. Éric Ciotti, qui a représenté 40% de l'électorat de droite. Il ne faut pas les oublier.
De l'autre, ceux comme Jackie, qui n'ont pas beaucoup apprécié l'utilisation par la candidate de l'expression « grand remplacement » et la mettent en garde.
C'est-à-dire de ne pas composer, essayer de rattraper les autres. Il ne faut pas qu'elle court après Le Pen ou après l'autre rigolo, là, Zemmour. Là. Non, qu'elle reste elle-même.
À 45 jours du premier tour, Valérie Pécresse est donc toujours à la recherche de la formule magique pour tenir les deux bouts de l'omelette, coincée entre un candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, qui assume une OPA sur la droite, et un président sortant qui gouverne avec plusieurs ministres de droite, dont son premier ministre.
Les deux bouts de l'omelette, Anne Souhaitemont et Valérie Pécresse, est à 8h20 sur Inter. Dans le Cantal, la chasseuse de 17 ans, soupçonnée d'avoir tué par accident une randonneuse ce week-end, est présentée à la justice tout à l'heure. La victime avait reçu une balle perdue alors qu'elle marchait sur un sentier balisé. L'enquête pour homicide involontaire se poursuit. Le procès des attentats du 13 novembre ne reprendra pas comme prévu aujourd'hui. Deux nouveaux cas de Covid parmi les accusés. Il va falloir de nouveau suspendre l'audience toute la semaine. C'est la quatrième fois que cela se produit.
Il est 7h09, un constat ce matin à 4 jours du Salon de l'Agriculture. La France, William, perd 27 fermes par jour en moyenne.
C'est le constat de Terre de Liens. Aujourd'hui, ce mouvement citoyen publie un rapport alarmant sur les terres agricoles. De plus en plus entre les mains de grandes exploitations. Alors Béatrice Duguay, ce réseau se mobilise et se retrousse les manches pour aider certains à s'installer.
Laurent Sondra
Barat est une heureuse reconvertie, travailleuse sociale dans une première vie. Elle élève aujourd'hui une petite cinquantaine de chèvres dans le Loiret. La dernière née du troupeau est joliment nommée.
Sapristi, parce que c'est une sacrée coquine.
Sapristi, ça résume aussi l'abnégation qu'il faut pour trouver des terres quand, comme Laurence, vous n'êtes pas du sérail. Elle voulait s'installer en Beauce, là où elle habitait, fin de non-recevoir des agriculteurs locaux.
Les chèvres n'ont rien à faire sur des bonnes terres céréalières et n'étant pas issues du village non plus, c'était pas intéressant de nous laisser nous installer. On m'a pas pris au sérieux. On m'a clairement dit qu'il fallait que je trouve un autre métier, une autre lubie, qu'un éleveur n'était pas un agriculteur, etc. J'avais pas le droit de m'installer, quoi.
Finalement, elle partage une parcelle avec un autre agriculteur. Terre de Liens finance la surface agricole. Idem pour Aymeric Duclos, 28 ans, qui produit des petits fruits en Haute-Loire. Il a galéré pour trouver une petite exploitation. Les énormes fermes actuelles sont les vestiges d'un système agricole, dit-il.
Système agricole qui a beaucoup incité les agriculteurs à se mécaniser et donc à avoir aujourd'hui des fermes en fin de carrière qui sont dures à céder. Et donc, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut-être s'associe pour reprendre des fermes ensemble qui sont beaucoup plus grandes ou comment on fait pour en créer des nouvelles.
Petites exploitations qui évitent l'artificialisation des terres et qui maintiennent la vie dans les campagnes, soutient le mouvement Terre de Liens. Il réclame une loi sur les terres agricoles.
Béatrice Duguay, le Salon de l'Agriculture, il s'ouvre samedi matin, porte de Versailles à Paris. Interpréter encore les variations Goldberg de Bach, près de 300 ans plus tard, un musicien français retourne aux sources de l'œuvre et de ses 32 compositions. Au clavecin, cette nouvelle version est signée Jean Rondeau, il a tout juste 30 ans et vient de sortir son album, Stéphane Capron. La preuve que le clavecin n'a rien de conservateur.
Jean Rondeau l'assure, il n'a jamais écouté d'autres enregistrements des variations Goldberg, même pas celui mythique au piano de Glenn Gould. Il souhaitait arriver avec son propre univers face à la richesse de la partition.
C'est vrai que c'est une œuvre qu'on qualifie de monumentale, mais en fait, je l'ai abordée de manière plutôt simple, comme j'ai l'habitude d'aborder des œuvres, c'est-à-dire de me plonger dans le texte musical et voir qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il pose comme question, qu'est-ce qu'il soulève. Et donc j'ai évité de tomber, à mon avis, dans un petit piège qui serait celui de la comparaison avec beaucoup d'autres versions.
Ce qui a guidé Jean Rondeau, c'est Bach lui-même. Il a travaillé à partir d'une version annotée par le compositeur.
Cette partition retrouvée, qui est à la Bibliothèque nationale de France, présente des corrections de la main de Bach lui-même. Donc je trouvais que ce matériel nous semblait peut-être le plus authentique et le plus intéressant à creuser. Si on a, disons, dans notre laboratoire, les rouages d'un langage sur lequel on travaille, ça nous aide forcément à déchiffrer.
Ce qui impressionne dans ce nouvel enregistrement, c'est la profondeur de l'interprétation de Jean Rondeau, qui est devenu au fil des années l'un des plus grands clavecinistes au monde.
Voilà, le clavecin 4.0, l'artiste sera en tournée au printemps et l'été prochain, Nicolas.
Merci William Delesseux. Le zoom dans 3 minutes à Madagascar aujourd'hui, les conséquences de 2 ans de famine.